partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Axel Mauger.
Voici la deuxième émission du portrait de Victoria Ocampo, un portrait proposé par Axel Mauger, auteur d'un ouvrage intitulé « Les élites argentines et la France » pour une série à Canal Académie, merveilleux francophile argentin.
Je vous présente aujourd'hui la deuxième émission sur la plus grande des intellectuelles argentines, Victoria Ocampo. Bonjour. L'heure de la maturité a sonné. Lorsque l'idée de créer une revue littéraire est proposée à Victoria par Édouard Malea et Faldo Franck, ils veulent promouvoir le dialogue entre les peuples. Dans leurs esprits, il s'agit d'établir un pont culturel entre les continents. Pour savoir ce qu'en pensent ses amis européens, Victoria repart à Paris. Mise au courant, Drieux l'introduit un peu partout. Ce projet de revue passionne la belle Argentine. Ortega et Gasset, Supervielle, surnommé le bon Julio, Drieux, Kesserling, Valdo Franck la soutiennent. Dès lors, elle décide d'aller de l'avant. La littérature devient pour elle un absolu, si bien que le premier numéro de la revue Sûr paraît en janvier 1931. Curieusement, une bonne partie de la critique argentine considère cette revue cosmopolite comme étant au service de l'étranger. Ils ont tort, ou ne savent pas lire, puisque les meilleurs écrivains américains y apportent leur contribution. Jules Supervielle sera le premier à rendre hommage à la revue de Victoria Ocampo. Il met l'accent sur la francophilie de sa directrice, qui se dit prisonnière du français. En 1932, juste après avoir terminé Drôle de voyage, Drieux La Rochelle débarque en Argentine. Je dis bien en 1932. Dans ses conférences, il est obsédé par la décadence européenne. Par bonheur, le séjour en l'éloignant de l'Europe lui fait du bien. Il bénéficie en Argentine, pays francophile et encore francophone, du prestige de la culture française dont il est un peu le représentant officiel. À travers lui, c'est l'écrivain français respecté dans toute l'Amérique du Sud que l'on célèbre, souligne Laura Ayerza de Castillo et Odile Felgin. Les femmes le comblent. Il tombe amoureux de la sœur de Victoria, Angélica, se met à l'espagnol argentin, découvre la pampa qu'il présente ainsi. C'est un vertige horizontal, le vertige horizontal qu'y a-t-il de plus argentin? Bientôt, on lui présente Jorge Luis Borges, qui l'entraînera dans son univers citadin pour de longues promenades nocturnes. C'est Borges qui, en évoquant le dictateur bolivien Melgarejo, l'incitera à écrire « L'homme à cheval » 10 ans plus tard, c'est-à-dire en 1943. On y retrouvera Victoria et Angélica sous les traits de Doña Camilla et Doña Isabel. Invités par Bernard Pivot afin de célébrer la 200e émission de Bouillon de culture, l'acteur Alain Delon déclara qu'il souhaitait depuis fort longtemps incarner le personnage principal de ce roman. Borges, lui, est frappé par l'intelligence de Drieux. Borges, lui, est frappé par l'intelligence de Drieux La Rochelle. De son côté, dans une lettre intitulée « Borges vaut le voyage », lettre reproduite dans le livre de Madame Castillo et Felgin, Drieux, particulièrement élogieux à son endroit, confie « Borges est une belle nature, il est gai, triste, intelligent et sentimental, amoureux et privé de tout ». En Allemagne, un autre ami de Victoria, le fameux Kesserling, publie à la même époque ses méditations sud-américaines. Autant reconnaître qu'il surprend aussi bien Victoria que les collaborateurs de la revue Sûr en écrivant « L'Amérique du Sud est un continent tellurique, primordial, dominé par des femmes primordiales, elles aussi. Les propos sont violents. D'aucuns pensent qu'il a voulu régler ses comptes avec Victoria, mais l'équipe de la revue Sûr en a vu d'autres et continue de plus belle à favoriser le dialogue. Excellente ambassadrice, Victoria Ocampo la représente à l'étranger, multipliant les rencontres, parfois inattendues, je pense à celle qu'elle eut avec Mussolini, avec des écrivains célèbres tels André Malraux, Victoria Wolf et d'autres encore. Elle a de l'estime et de l'amitié pour Malraux. Ils vont se revoir souvent, tantôt chez elle, tantôt chez Drieux, pour de longues conversations où se donne libre cours le cynisme désespéré de Drieux, l'elliptisme saccadé de Malraux et l'ardeur de Victoria. 1935 est une année importante pour Victoria, car elle commence à rédiger ses testimonios, c'est-à-dire ses mémoires. Elle n'arrêtera cette chronique sensible et désordonnée du monde qu'elle côtoie qu'en 1977. La même année, elle devient présidente des femmes argentines. Certains trouvent que les responsabilités la rendent trop autoritaire. Il arrive parfois qu'elle indispose Borges. Toujours prête à se remettre en question, cette francophile dans l'âme s'oblige à partir de 1937 à réapprendre l'espagnol, sa langue maternelle qu'elle avait jusque-là tendance à déprécier. Quelques temps avant de faire la connaissance de Roger Caillois, elle reçoit la visite de Georges Bernanos, lequel saisit aussitôt la dimension profondément mystique de son interlocutrice. Toujours passionnée par la France, on la retrouve encore à Paris en 1938. Un soir, des amis lui présentent Roger Caillois, alors âgé de 26 ans. Elle en avait 48. J'ai trébuché sur son intelligence, aussi évidente que sa maigreur, se souviendra-t-elle. Elle est totalement séduite par ses yeux noirs, ses cheveux noirs et son visage en lame de couteau, lui s'avère plutôt sur ses gardes. À l'issue d'une autre soirée, Denis de Rougemont, auteur, vous le savez, de L'amour et l'Occident, et Gisèle Freund, la grande photographe, prédisent à Caillois sous forme de boutade « La panthère te dévorera ». Il n'avait pas tort, comme par hasard, Victoria lui propose de venir donner des conférences en Argentine. La guerre le surprendra, Roger Caillois bien sûr, dans ce pays situé au bout du monde où il restera 5 ans, il est bloqué. Victoria devient sa mère, sa maîtresse, sa protectrice. Grâce à elle, il découvre bon nombre d'auteurs argentins et latino-américains ignorés en France, tels que Jorge Luis Borges, Gabriela Mistral, Silvina Ocampo, Adolfo Bioy Casares, Eduardo Malea, Jorge Amado, Vargas Llosa, Pablo Neruda, etc., etc. Lorsque la fiancée de Roger Caillois arrive, car il était fiancé, finalement, lorsqu'elle arrive à le rejoindre, Victoria ne les laissera pas tomber. Grande dame, elle lui écrit « Je ne souhaite pas que tu réussisses dans la vie, mais que tu te réussisses ». C'est bien aimable. Ce que les Anglais appellent « self-realization ». Elle l'aide à publier à partir de 1941 une revue intitulée « Lettres françaises » afin que les écrivains ralliés à la France, libres, puissent s'exprimer. C'est aussi, ne l'oublions pas, lors d'un périple en Patagonie, que Roger Caillois se réconcilie avec le poète qu'il n'a jamais cessé d'être. En ces lieux étranges, il donne libre cours à sa passion pour le monde minéral. Quelques-uns de ses plus beaux livres, « Espace américain », je cite, « Pierre », L'écriture des pierres, Pierre réfléchit, sortiront de ses aventures. Il est important de souligner ici qu'Odile Felgin a publié en 1994 un essai sur Roger Caillois chez Stock. Dans cette biographie, l'auteur montre la variété des centres d'intérêt de Caillois, surréalisme, marxisme, psychanalyse, mythologie, rêve, ethnologie, entomologie, minéralogie. C'est Claude Lévi-Strauss, vieil adversaire de Caillois, qui le félicita un jour de définir l'indescriptible, ce qui revenait à le sacré poète. Tout au long des années de guerre, la culture française continue de se répandre grâce à la très vive générosité des Argentins. Nul autre que l'irrésistible Louis Jouvet, grand homme de théâtre français, lorsqu'il met en scène à Buenos Aires du Molière, du Claudel, du Supervielle ou du Giraudoux, note à son tour l'extraordinaire francophilie des Sud-Américains. Pendant 46 mois, lui et sa troupe sillonneront l'Amérique latine. Durant cette longue période, ils donneront en moyenne une représentation tous les 5 jours en Uruguay et en Argentine. L'accueil s'avère toujours triomphal. Au Pérou, cela tourne au délire. Le voyage culturel interminable, pour cause de guerre, s'arrêtera également en Équateur, en Colombie, au Venezuela, à la Havane, en Haïti et au Mexique. C'est au Mexique qu'ils apprennent la réussite du jour le plus long. Tout Mexico est pavoisé pour l'occasion. Et l'extraordinaire francophilie de l'Amérique latine mérite d'être rappelée aujourd'hui tant les liens du cœur ont quelque chose d'éternel. Lorsque la nouvelle de la libération de Paris se répand, Buenos Aires exprime l'intensité émouvante de sa francophilie dans une explosion de joie spontanée. Victoria Ocampo, toujours elle, ne se contente pas de présider le comité de solidarité avec les écrivains français ni de l'appuyer financièrement dès la libération. Elle fait expédier à titre personnel des effets à ses amis et relations. Elle sera comblée de joie Paul Valéry, je dis bien, en lui offrant une simple paire de chaussures cadeau somptueux à l'époque. C'est alors qu'elle apprend le suicide de l'ami Drieux, auteur du fameux récit secret « Nous avons joué, j'ai perdu, je réclame la mort ». Elle avait compris depuis longtemps qu'il se supprimerait. Dès 1940, Victoria saisit l'ampleur de la décadence qui rongeait notre pays. « Je pense à Peggy, Maritain, Bergson, je pense à la France que j'aime et que rien d'autre ne peut remplacer en moi. Je pense à Debussy et Ravel, le manque de hiérarchie, rien n'était à sa place. Ici non plus, malgré tout, l'Argentine m'inspire quelque espoir. » Après la guerre, Victoria continue de soutenir Roger Caillois. Revenu en France, il sera bientôt envoyé en mission en Amérique latine où il rencontrera celui qui deviendra un de ses amis les plus chers, l'écrivain Miguel Ángel Asturias. Pour mieux appuyer la carrière de son protégé, Victoria Ocampo dispose d'un atout de taille en la personne du nouvel ambassadeur en Argentine, Vladimir d'Ormesson. Ce dernier lui a été en effet recommandé par une vieille connaissance, Paul Valéry. Monsieur d'Ormesson est ébloui de trouver une seconde France en Argentine. Il considère et le fait savoir que Victoria Ocampo s'affirme comme la plus intelligente et la plus précieuse amie que le pays des droits de l'homme possède sur ce continent. C'est la France, plus qu'aucune autre nation, qui nous a marqués, constate même l'anglophile Borges. Le modernisme est inconcevable sans Hugo et Verlaine. Dans mon enfance, ignorer le français, c'était presque être analphabète. Au fil des années, nous sommes passés du français à l'anglais, à l'ignorance, y compris celle même du castillan, déplore-t-il amèrement. Il apparaît clair que le dialogue des cultures n'existe que s'il repose sur la réciprocité. Aussi, en 1950, Roger Caillois fonde-t-il chez Gallimard la Croix du Sud, en souvenir certainement du nom de l'avion dans lequel Mermoz a disparu le 7 décembre 1936. Donc la Croix du Sud, collection consacrée aux œuvres d'auteurs du monde latino-américain qu'il choisit lui-même. Ce qui lui permet de révéler au public français non seulement Borges, mais encore des classiques tels que Sarmiento, Marti, Jesús Galván, et en outre de diffuser les œuvres de Carpentier, d'Asturias, de Rulfo, de Cortázar, de Bastos, de Porcia. Le rôle de Roger Caillois est éminent dans la redécouverte de la littérature sud-américaine qu'un Jean Cassou, que j'ai bien connu d'ailleurs, avait défendu en son temps à la fois en France et à travers l'Europe. Le protégé de Victoria n'arrête pas de multiplier les initiatives en faveur des écrivains latino-américains. Il encourage entre autres à Pierre Segers à en accueillir plusieurs dans sa collection des poètes d'aujourd'hui. Il stimule l'intérêt de Dominique de Roux, personnage romantique, généreux, qui publie le magnifique cahier Borges et le Facundo de Sarmiento au cahier de Lerne. Dès lors, les éditeurs Albin Michel et Lafont emboîtent le pas. Puis en 1954, l'on assiste à la création de l'Institut des hautes études d'Amérique latine à Paris. Le dialogue entre la France et l'Amérique latine prend de l'ampleur. Pendant ce temps-là, la situation politique se détériore en Argentine. Entre 1951 et 1955, avant de devenir crépusculaire, le péronisme fait main basse sur l'enseignement. Pas moins de 28 000 instituteurs seront licenciés. Perón, toujours machiavélique, gouverne de façon sectaire et joue à fond la carte de la bourgeoisie montante, rivale de l'oligarchie, tout en s'appuyant sur le mouvement ouvrier. Et c'est la fameuse formule de Perón qui disait à son chauffeur: vous mettez le clignotant à gauche, il était en voiture, et vous tournez à droite. Voilà ce qui était le général Perón. Le général Perón ne supporte pas que l'opposition à son régime grandisse. Aussi confie-t-il à la police le soin de rétablir l'ordre en arrêtant à tour de bras. L'indépendante Victoria Ocampo figure sur les listes des opposants. Accusée à tort d'avoir participé à un attentat, cette femme de culture réputée dans le monde entier est à la stupéfaction générale incarcérée, avec elle Borges et tant d'autres sont arrêtés, humiliés. L'arrestation de Victoria Ocampo crée un tollé. Très vite, ses amis se mobilisent. Albert Camus est l'un des premiers à réagir. Mauriac, Monroy, Pollan, Caillois lui emboîtent le pas. De leur côté, les intellectuels américains manifestent en sa faveur, Valdo Franck en tête. Mais c'est la poétesse chilienne Gabriela Mistral, prix Nobel 1947, qui se montre la plus active. Exigeant la libération de Victoria, elle alerte amis et personnalités dans le monde entier. Curieusement, rien ne vient de la France officielle. Du moins, rien ne transparaît. En revanche, divers autres gouvernements exercent de vives pressions sur Perón, notamment l'un dans la personne du Premier ministre Nehru. Victoria est enfin libérée le 2 juin 1953, après avoir passé 3 semaines en prison. La gestion économique du général Perón étant devenue catastrophique, un coup d'État militaire renverse dictateur populiste 3 ans plus tard, en 1956. Dépité, il se réfugie quelque temps dans des républiques bananières avant de s'exiler dans l'Espagne franquiste. En dépit des difficultés, Victoria, à présent âgée de 65 ans, même en partie ruinée, s'efforce d'assurer la survie de la revue Sûre. Plusieurs de ses bons amis disparaissent, Jules Supervielle, Alfonso Reyes, Albert Camus, ce dernier dans un terrible accident de voiture. L'heure du bilan approche pour Victoria, il est magnifique. Tous reconnaissent qu'elle a eu l'immense mérite de donner la parole et d'offrir des responsabilités à des écrivains sud-américains de talent, voire de génie. En tête des auteurs reconnus s'inscrivent les noms de Jorge Luis Borges et d'Ernesto Sabato. Son flair a la plupart du temps été excellent. N'a-t-elle pas su dès le début choisir l'un de ses meilleurs d'entre eux, Eduardo Malea, afin de diriger la revue ? N'est-ce pas Ezequiel Martinez Estrada qui, encouragé par Victoria, publia dans Sûr des extraits de sa célèbre radiographie de la Pampa 1933. Dans ce livre, l'auteur tente de réconcilier les Argentins avec leur héritage hispano-indien. Cet homme chaleureux aida Victoria à être authentiquement elle-même, très attachée à la belle Argentine. Il commença à écrire un livre sur elle qu'il laissa hélas de côté dès qu'elle s'éteignit. De l'avis unanime, la période comprise entre 1931 et 1957 fut la période d'or de la revue qui a sans cesse défendu la cause de la démocratie contre la dictature. On se souvient que la direction n'a pas hésité à prendre le parti des républicains durant la guerre civile espagnole ni à appuyer la cause des alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans un recueil de témoignages, Roger Caillois fera de Victoria Ocampo un portrait un peu sévère à première vue, impétuosité, versatilité. Mais en réalité, ce portrait sans complaisance ne donne que plus de poids à ses vertus, sentiment aigu de la qualité, vive intelligence, courage, extrême sensualité, perspicacité de cœur. Et Caillois de conclure, Victoria est un des êtres auxquels je dois le plus. En définitive, il rend un bel hommage à la panthère noire, laquelle, il est vrai, n'a jamais été ingrate à son endroit. Comme les années avancent, en 1973, Victoria lègue ses biens à l'UNESCO dans sa délicieuse propriété de San Isidro, que m'a fait visiter le professeur Antonio Batro, un autre francophile distingué. Elle organise encore en 1977 une rencontre avec des écrivains venus de nombreux horizons. En 1978, un scandale absolu la terrasse. Roger Caillois de l'Académie française, à peine âgé de 65 ans, meurt. Victoria ne lui survivra pas longtemps. Elle s'éteindra en effet dans la nuit du 27 au 28 janvier 1979. En France, quelques brefs articles de journaux mentionnent sa disparition. Peu de choses, reconnaissons-le, au regard de ce qu'elle a donné sans compter à notre pays. La reine Victoria s'en est allée discrètement. Le 15 mai 1979, l'UNESCO rend hommage à cette femme de caractère. Se succède à la tribune Embo, le secrétaire général, la fille d'Ortega y Gasset Soledad, l'ancien collaborateur de Roger Caillois, Jean d'Ormesson, et Jorge Luis Borges. On peut alors dire que le rideau tombe sur une aventure hors du commun. Se déplacer, aller d'un point à un autre, est une des caractéristiques des espèces supérieures, écrit Paul Morand. Toujours dans le voyage, ces propos peuvent s'appliquer à la démarche généreuse de Victoria Ocampo. Bientôt, je me déplacerai donc et quitterai Buenos Aires. Mais avant de m'éloigner, j'emporterai avec moi, j'en suis sûr, la présence enveloppante de Victoria Ocampo, rayonnante dans nos esprits et nos cœurs. Elle, qui aimait tant le parfum des fleurs de son jardin, se sent doux et volatile de la nature, baume à toutes les douleurs. N'est-ce pas la sensuelle Victoria qui confiait dans une lettre à Drieu La Rochelle « Les gens, je cite, les gens qui n'aiment pas la musique ignorent à quel point, en plus de sa beauté, du plaisir, de la joie, de la tristesse qu'elle donne, elle est mystérieuse. Il me semble que parfois, si je pouvais déplier la musique que j'aime, j'y trouverais le secret de l'amour et de la vie. Parfois, il me semble que je découvre où est le pli à déplier, mais c'est comme si je n'avais pas de main. » C'est vraiment magnifique. Dans ces phrases, nous découvrons la quintessence de son extraordinaire sensibilité. Jorge Luis Borges, le vieil ami, ne trouvait qu'un avantage à sa cécité, celui de ne pas voir vieillir le visage des femmes qu'il avait aimées. Aussi, tout en ayant le vif plaisir de l'approcher les dernières années, put-il garder d'elle le souvenir intact de sa beauté. Parlant encore de Victoria, elle déclara un jour « Ce qu'elle a réalisé était non seulement noble, mais intelligent. » Plus j'y pense, plus cette femme apparaît comme un exemple entraînant pour les jeunes générations. N'a-t-elle pas toujours refusé la médiocrité, défendu l'indépendance d'esprit et affirmé sans cesse le rôle de la femme dans la société? Dans son préambule au livre de Madame Castillo et Felgin, Ernesto Sabato rend à son tour un hommage mérité à la belle Argentine, toujours tournée vers l'élévation intellectuelle et artistique, au cœur d'un monde où régnait l'insulte, les enlèvements, la mort et le totalitarisme. Victoria a su développer un immense dialogue, dialogue aussi bien en faveur des républicains espagnols que de Drieux-La Rochelle, dialogue aussi bien entre Borges que Kiowa. Nul doute que cette femme était européiste. Un jour, on comprendra tout ce que la culture du pays, et j'ajouterai d'autres pays, doit à cette femme obstinée, ajoute un peu plus loin Ernesto Sabato. Entouré de la présence de Victoria et de celle de ses amis et admirateurs, je peux à présent quitter l'Argentine. Je sais que grâce à l'action de cette femme éblouissante, l'Argentine, elle, ne me quittera plus. Merci beaucoup.